Bonjour à tous et bienvenue dans la cinquième partie de notre série d'émissions consacrée à la naissance de l'idéologie du pouvoir, en compagnie d'une psychanalyste, Michèle Bompard-Porte. Rappelez-vous, schématiquement, avec l'avènement du néolithique, les groupes humains, jusqu'alors fraternels, passent au stade oligarchique avec une organisation hiérarchique. Et maintenant, le déluge. La montée des eaux fut une réalité, progressive mais planétaire. La fin des glaciations s'accompagne de la fonte des neiges. Les mythes ont repris cette réalité géologique sous la forme du déluge.
Le résultat fondamental qu'on peut peut-être dire d'emblée est le suivant. Tout se passe comme si des événements réels catastrophiques, un, modifiaient l'économie, enfin la dynamique des cultures qui existaient, deux, quand la culture est devenue relativement hiérarchique, les événements réels donnent lieu à la création d'un discours idéologique dans lequel les événements réels sont devenus l'arme des élites pour terroriser les populations. Sur le réel, on a 22 mètres de montée des eaux du golfe Persique, entre 6000 et 3005. Et du point de vue de la réalité géographique, il n'y a pas de golfe Persique en 6000. Le Tigre et l'Euphrate, ils vont se jeter dans l'océan Indien, et ça remonte même un peu plus haut que où on est maintenant. Ce qui veut dire que toutes les villes de Sumer sont sur la mer ou presque, alors que maintenant elles sont à 100 km, enfin les traces archéologiques maintenant sont un peu à l'intérieur. Donc, l'hypothèse est la suivante. On ne sait pas très bien pourquoi il y a deux cultures, la culture, on va dire, du nord, Alaf, et puis la culture Obed, du sud, qui coexistent pendant un bout de temps. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à partir d'un certain moment, la culture d'Obed va recouvrir très progressivement. Ça n'a pas l'air d'être violent, ça a plutôt l'air d'être des gens qui s'arrangent entre eux, il reste un peu de Alaf, arrive de l'Obed, ça se voit avec les poteries, hein. Et peu à peu, Obed remonte et va recouvrir un peu tout Alaf. Ça va prendre pas loin d'un millénaire. Mais Obed, c'est une culture qui a déjà des villages plus grands que Alaf et qui a notamment ce qui s'appelle des maisons tripartites, qui sont interprétées comme des maisons collectives avec une grande pièce centrale et puis des espèces d'appartements pour plusieurs familles. Donc ça démarre très tôt, vers 6000. Et cette culture d'Obed, elle a un phénomène de, on va dire, j'ai pas envie de dire régression, mais elle devient plus rudimentaire avec le temps. C'est-à-dire les poteries deviennent plus rudimentaires, les poteries sont plus standardisées, et ils se fabriquent des espèces de déesses-mères qui deviennent absolument terrifiantes. Des machins qui ont des gueules de serpent, avec des visages vraiment terrorisants. Ils ne sont pas très très grandes, mais c'est vraiment des objets persécutifs. Alors, c'est peut-être pas très difficile de penser que cette régression relative est liée au fait que ces gens sont mis dans des situations de plus en plus difficiles, et puis sont obligés... C'est-à-dire, ils vont remonter jusque dans le nord. Évidemment, ils allaient jusqu'à l'océan Indien. L'eau remonte. D'après les géologues, ça remonte pas tellement gentiment. En plus, il y a des phénomènes comme de cuvette, c'est-à-dire qu'elle remonte puis elle redescend, etc. Donc, on a des gens qui sont soumis à des conditions extrêmement difficiles du fait de l'eau salée. Pour ceux qui sont en bas, pour ceux qui sont en haut, on aurait affaire à des problèmes d'inondation d'eau douce, parce que le Tigre et l'Euphrate sont des fleuves absolument terribles. On y reviendra peut-être plus tard, mais enfin, il y a des sautes de débit, de 1 à 1000 pratiquement, qui sont complètement destructrices. Sauf qu'on ne peut pas en parler pour le moment, parce qu'on est encore dans Alaf Obed, c'est-à-dire des petits villages. Donc les gens, ils s'en foutent pas mal qu'il y ait des grandes crues, ils n'ont qu'à se mettre un peu plus loin. Les grandes crues de l'eau douce, ce n'est pas problématique. Ce qui est très problématique dans les transformations du début, c'est surtout la remontée à partir d'en bas de la mer. Bon. Alors, on a un truc qui est relativement lacunaire, moi, comme tout le monde, parce que du fait de cette remontée, du changement de niveau de la nappe phréatique, du changement d'accumulation des limons, du Tigre et de l'Euphrate, voilà, il y a pratiquement un millénaire sur lequel on a à peu près rien. C'est-à-dire, 4003, peut-être 4006, voilà, 3005, presque plus rien. Avant qu'on voit apparaître 3003 Eridu, la première ville sumérienne, donc on est quand même en difficulté. Et ce qu'on voit quand même, c'est un changement dans l'architecture. Et là, je dois dire que je suis baba, parce que apparemment, je suis la seule à le dire, ce qui me laisse un peu pantoise. Donc, les archéologues voient apparaître, juste avant qu'on arrive à l'apparition de Sumer, là, pendant ce millénaire où l'eau remonte, où on n'a pas grand-chose, mais on a quand même des bribes, on voit apparaître des grandes terrasses qui font entre 2 mètres et je ne sais pas combien de haut, sur lesquelles on construit des maisons. Alors, moi qui ne suis pas archéologue, pas ceci, pas cela, je me dis, ces gens, ils ont l'eau qui remonte et qui remonte en plus avec des effets de cuvette comme ça. Peut-être que tout bêtement, ils ont inventé de monter une terrasse qui correspond à peu près à ce qu'ils ont vécu de pire comme inondation, puis qu'ils ont monté leur maison dessus. Ce qui veut dire qu'on aurait un changement, en tout cas architectural, qui serait lié à la montée des eaux. Et peut-être, mais ce n'est pas très net, on a l'impression que ces cultures restent assez égalitaires, un début de quelque chose qui ressemblerait à une hiérarchie, qui serait liée à la monumentalité relative de l'architecture. Ce qui semble être un peu le cas. Néanmoins, je ne peux pas faire autrement que suivre tous les chers collègues et dire que, on pourrait dire, par absence d'infos relativement, on a quand même une difficulté à comprendre comment on passe aux villes sumériennes, parce que le temps d'avant, on a un peu Obeid et on a cette histoire de grandes terrasses et d'architecture un peu monumentale, mais on a quand même très 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 peu de choses, donc on est mal. En plus, il y a une chose dont on est sûr, c'est que Sumer, c'est construit avec des groupes différents. Enfin, Sumer, il y a toutes ces villes. Hein.
Sumer, c'est un ensemble de villes, une organisation politique, administrative, économique, avec déjà donc certains critères de définition d'un État, si on veut.
Donc il y a un groupe local qui est resté. On a absolument certainement des gens qui remontent, des émigrants, quoi, des parties inondées. Et on a aussi, ça se repère notamment aux premières divinités qu'on voit apparaître, des groupes de nomades qui sont venus là. Donc on a une culture qui apparaît, qui est relativement énigmatique, qui dépend complètement dans son architecture, ce qu'elle va devenir, les ziggourats. Hein. La base des ziggourats, c'est ça, c'est ces grandes terrasses avec leurs maisons collectives dessus. Et donc on a une sorte d'hésitation sur quelle a été la puissance du cataclysme inondation, on ne va pas encore dire déluge, mais c'est quand même de ça qu'il s'agit, dans la fabrication de cette transformation qui crée les villes. On peut penser que c'était bêtement, les villages décident collectivement de faire une grande terrasse et de se monter une maison collective pour, hop, quand c'est trop méchant, on monte. Moi, je fais l'hypothèse, qui est nulle part, hein. Donc l'hypothèse que les terrasses, c'est parce qu'il y a des inondations, il n'y a que moi qui l'a fait. Je suis baba, je ne comprends pas pourquoi. Silence, mais radical, sur le fait que cette histoire a lieu au milieu des inondations, quoi. Les archéologues, ils ne veulent pas en dire un mot, et les assyriologues Botero et Krasner, dont je me suis beaucoup servi des traductions, eux, ils pensent que les Sumériens arrivent d'ailleurs. Bon, c'est bien gentil, sauf qu'il faudrait quand même savoir d'où. Ils ne sont quand même pas surgis de l'abysse maritime. Or, il n'y a aucune autre culture repérée nulle part qui permettrait de penser que des gens arrivent avec la technologie, l'écriture, armes et bagages, comme ça. Attends, ils sont arrivés d'où? Donc, on est bien obligé d'avoir une sorte d'endogénéité de l'apparition de la culture de Sumer. Et donc, avec cette certitude que c'est une culture qui est d'emblée multiculturelle, on va dire. Hein. Les nomades, les gens de sur place et les gens qui sont arrivés de plus bas. Bon. Et donc, moi, je rajoute, un, ces terrasses et ces maisons collectives, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas une technique de sauvegarde en cas d'inondation qui remonte trop haut, etc. Et d'un. Et de deux, je réfléchis juste que quand il y a une grande catastrophe et que c'est une grande catastrophe à répétition, en général, on a des pompiers ou un corps comme ça qui se construit parce que tout seul, on est un peu en difficulté. Si le truc s'est produit un certain nombre de fois, qu'en plus on a été prévenu par les copains qui sont remontés, faites gaffe, ça va bientôt vous arriver. Il y a des chances que les gens s'organisent avec un groupe, entre guillemets, de sauveteurs. Et donc, je fais en plus l'hypothèse pour voir à l'horizon apparaître une culture avec élite, qui serait quand même pas très très étonnant qu'une culture très égalitaire, aux prises avec des catastrophes à répétition, créer un groupe qui a priori est pompier, sauveteur, voilà, mais qui éventuellement, en tant qu'il sauve, du point de vue de la psychologie collective, est du côté de prendre le pouvoir, même si c'est pas quelque chose de très violent, et c'est pas quelque chose de très violent, c'est-à-dire que la première... Les villes sumériennes à leur début et à ce qu'on en a, parce qu'on n'a pas beaucoup, hein, c'est quand même plus tard, restent des trucs très peu hiérarchiques, avec un... je ne sais plus où, on élit le roi tous les ans. Enfin, vous voyez, c'est quand même des conditions qui restent apparemment, en tout cas, mixtes. Oligarchie, démocratie, et sauf un seul endroit qui est... Il y a une des villes où on a un roi prêtre comme ça relativement tôt, et partout ailleurs, on n'a pas de figure comme ça, horde, voilà, totalitaire, précoce. On a au contraire des régimes dont on a l'impression qu'ils sont relativement bénins, ce qui se voit très très bien dans la sculpture. Toute la sculpture du début de Sumer, on voit des gens très calmes, posés, avec des postures modestes. On voit premiers étendards... Première représentation d'une guerre. Alors, il y a les vainqueurs, les vaincus. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Voilà. Et de l'autre côté de ce même étendard, il y a un repas. Et c'est pareil, ceux qui mangent et ceux qui servent, tout ce monde-là est sur le même niveau. Donc, c'est parce qu'après, ça ne sera plus sur le même niveau, hein, que je peux repérer que ben, les débuts de Sumer, ce n'est pas des débuts très violents. Ce n'est pas des débuts très totalitaires. C'est une culture qui reste... dans ses débuts, ça s'appelle Uruk III, probablement démocratico-oligarchique.
Uruk est une ville de l'ancienne Mésopotamie, dans le sud de l'Irak. Les fouilles archéologiques menées pendant un siècle jusqu'en 1989 ont révélé qu'elle a été occupée à partir de la période d'Obeid, environ 5000 avant notre ère, et ce, jusqu'au 3e siècle de notre ère. Cette ville, qui joua un rôle religieux et politique primordial pendant environ 4000 ans, rayonna sur une partie du Moyen-Orient. Cette ville, Uruk, de loin la plus grande agglomération de basse Mésopotamie, marque le début de l'urbanisation, mais aussi les débuts de l'écriture. Uruk III correspond à une couche, une strate, mise à jour par les fouilles, une couche archéologique qui remonte environ à 3000 ans avant notre ère.
Les déesses méchantes apparaissent dans Obed, dans le niveau de raffinement diminue, à peu près au moment où Obed diffuse et au moment où les eaux commencent à monter. C'est-à-dire, moi, je mets en relation cette relative baisse de niveau culturel avec les catastrophes réelles. D'accord ? Et juste, on a un peu une difficulté. Ah, c'est le seul endroit où on a une difficulté dans la continuité. Il y a des endroits où les archéologues disent on a des mètres de limon, il n'y a rien, il y a quelque chose avant, il y a quelque chose après.
Ben oui, sauf que là, il y a 1000 ans sur lesquels on est à peu près avec rien, donc on est obligé d'y aller tout à fait avec des précautions, quoi. Donc il y a une espèce de baisse de niveau qui apparemment s'étend partout, et en même temps, on n'a pas une vraie baisse de niveau, puisqu'on va voir apparaître ces cultures de Sumer. Et en même temps, on a quand même une baisse de niveau, parce qu'on va voir apparaître quelque chose de plus hiérarchique. Quand vous standardisez de trop, ça veut dire que vous rendez les gens tous mêmes. Et ben ça évoque une baisse de niveau, quoi. Ça s'appelle un uniforme, alors que ce soit de la poterie ou que ce soit un uniforme, voilà. C'est pareil, c'est quand même, en principe, une baisse de niveau relative par rapport à l'extrême subtilité de ce qu'on trouve. Les poteries à laf, c'est complètement original, fin, malin, humoristique. Il n'y en a pas de pareil. Enfin, c'est un vrai plaisir, pour la standardisation de poterie un peu faiblarde qu'on voit après. Obed est tout le temps moins élaboré qu'à la fin, mais Obed dégringole en même temps que les inondations deviennent fortes. Et puis il y a un endroit où on perd le fil parce qu'on va les retrouver Sumer. On les a vus dégringoler, on se dit, bon, on va avoir un truc hiérarchique. C'est pas du tout sûr qu'on ait un truc si hiérarchique que ça, mais quand même, le rebond, c'est Sumer. Et là, il y a quand même si j'ai dit, c'est pas méchant, c'est quand même plus un visage égalitaire, hein, de la Eridu ou n'importe quelle de ces villes à ce moment-là. Vous avez quand même un temple, vous avez des gens qui sont élites et des gens qui sont travailleurs, voire serfs, esclaves, etc. Même si c'est pas méchant, c'est quand même plus du tout pareil. On est passé à un groupe hiérarchique. Toutes les villes de la Mésopotamie sumérienne, elles tiennent dans un territoire qui est grand comme la Belgique. Toutes ces villes, elles sont à 15-20 bornes les unes des autres. Enfin, pas tout à fait, mais si on parle de la plus méridionale, c'est Eridu. Et on monte à Kish, qui est frontière sumère-Akkad. Ça doit faire 150 km. Il faudrait qu'on dise après qu'Akkad, c'est presque en même temps. Hein. Il n'y a pas une grande différence. Mais ce n'est pas du tout foutu pareil. C'est-à-dire, les Sumériens, comme dit Botero, les Sumériens, c'est des philosophes de la nature. Et donc, ils ont un panthéon à je ne sais combien de dieux, enfin, etc. Donc, c'est là qu'on sent que c'est pas très hiérarchique. Alors qu'au nord, le pays d'Akkad, où c'est des gens qui parlent une autre langue, et c'est des sémites. Alors que les Sumériens, on ne sait pas qui c'est. Non, c'est ça le problème. Les Sumériens, ils parlent une langue qui n'a pas d'équivalent nulle part. Et ils ont une culture qui est relativement très démocratique par rapport à ceux du nord, qui parlent une langue sémitique et qui ont une tendance à la monarchie relativement tôt. Donc ça fait quand même, il y a quand même deux espèces de monde. Moi, j'ai tendance à penser que les étrangers de Botero et Kramer, c'est juste les gens qui sont arrivés, qui étaient jusqu'au Golfe, qui étaient jusqu'à l'océan Indien et qui avaient probablement développé une culture un peu différente de ceux du nord. Alors. Mais alors, pour la langue, c'est un peu différent. Oui, si je fais l'hypothèse quelque part dans le bouquin que peut-être la culture de Halaf n'est pas descendue parce que les gens savaient déjà que ça commençait à aller mal, donc ce n'était pas la peine de descendre. Peut-être que c'est ça qui a fait la séparation. Donc, c'est là que je dis que le Sumer primitif est relativement élaboré, puisque apparemment il y a au moins trois groupes qui réussissent à fonctionner ensemble, comme j'ai dit, hein, les locaux, les nomades et les gens qui arrivent du sud. C'est dans le panthéon. Dès qu'on a un panthéon un peu stabilisé avec trois dieux principaux, on voit très bien qu'il y en a un qui est sémite, un qui est local et un qui vient du sud. Cette capacité d'échange entre des groupes culturels différents, c'est une démonstration du fait qu'on n'est pas encore dans un régime violent. Maintenant, ça nous fait revenir sur ce qu'on avait dit auparavant. Hein. C'est accueillir la diversité, c'est être un groupe relativement démocratique et reconnaître des semblables qui ont absolument le droit d'être pas exactement comme vous, hein, par rapport aux deux autres groupes qui sont la Horde et le Matriarcat, qui sont l'un absolument conformiste, il faut être même, et l'autre presque complètement conformiste. Donc la capacité d'accueil dit... Donc ma position, c'est le premier Sumer, certes, il y a des hiérarchies, mais il y a un sacré souvenir des groupes démocratiques antérieurs par toutes sortes d'indices. Hein. Donc la pluralité des groupes composants, le fait que dans la sculpture, on a affaire à des gens qui ne sont pas du tout sur des positions de toute puissance, sauf peut-être exceptionnellement le roi prêtre de d'Uruk. Mais Eridu, il n'y a jamais eu droit. Et les autres villes, c'est pareil. On a quelque chose qui est, entre guillemets, relativement doux. Ça s'organise en ville, mais ça ne s'organise pas en ville violente. Et ça s'organise avec l'écriture en même temps, voilà, qui apparaît là, à ce moment-là. Et donc moi, je parle là, la période que je dis douce, c'est avant 2008. 2007-2008, où là, on passe aux dynasties, ça s'appelle les dynasties. 2008, je donne 2008 parce que c'est Gilgamesh. Alors, Gilgamesh se fait brocarder dans des poèmes parce que c'est un roi qui a pris le pouvoir, qui a mis les gens qui voulaient tous les hommes pour faire la guerre, toutes les femmes pour les baisers et tout le monde au travail pour faire la muraille de je sais pas combien de kilomètres autour de Uruk. Donc là on voit qu'on a une emprise, ça y est c'est parti, hein, 2008 on a une emprise très forte d'une hiérarchie très puissante qui soumet beaucoup les autres. Donc il y a Gilgamesh et puis il y a le changement dans les sculptures. Par exemple, les représentations de guerre à ce moment-là. Donc, j'ai parlé de premier étendard qui est complètement égalitaire. On voit la guerre, mais tout le monde s'entend et sur un pied d'égalité. Et puis, deux, trois siècles plus tard, vers 2008, il y a une autre représentation comme ça de guerre. Alors, d'abord, elle est plus laïque, c'est-à-dire qu'il y a les représentations des dieux. Il n'y en avait pas dans la première. Et puis, les vainqueurs marchent sur les vaincus. On a changé de nom. Alors, ça s'appelle des dynasties. J'ai dit Gilgamesh 2008. Bon, là, on change déjà de monde. Hein. On passe dans un univers dynastique avec probablement beaucoup plus de systèmes hiérarchiques, beaucoup plus d'oppression des gens. Voilà. Bon, on a un petit peu dit, là, avec tous les points d'interrogation, l'apparition liée très probablement à la remontée des eaux, d'une culture relativement très élaborée et pas très répressive dans sa première constitution, mais qui invente quand même la première écriture et la première organisation citadine. Hein, avant, c'est quand même des bourgs, c'est pas des villes. En plus, la position de Cramer et Bottero consiste à dire...
Jean Bottero et Samuel Noah Cramer ont réuni en une somme les textes théologiques mésopotamiens et les récits du déluge. On leur doit notamment « Lorsque les dieux faisaient l'homme » chez Gallimard.
Consiste à dire, on est toujours avec une énième version. On arrive, disent-ils, très très mal à dater, et en particulier, étant donné qu'on est dans un pays bilingue, que probablement le sumérien devient langue morte au moment de Sargon, de 2003, quoi, mais néanmoins reste la langue des lettrés jusque très tard. Le fait que ce soit écrit en sumérien ou en acadien ne permet pas vraiment de dater. C'est-à-dire que sur les dates, on a quand même un flou qui est très grand. Et simplement, ce que Bottero et Cramer font très souvent, c'est de considérer, et je pense qu'ils ont raison, que le style d'un texte et la manière dont les dieux sont considérés permet, grosso modo, d'avoir une lecture plus ou moins chronologique. C'est-à-dire, plus les dieux deviennent inexorables, plus ils deviennent lointains, plus ils deviennent... totalitaire, et plus on avance dans le temps, ce qui correspond à l'évolution de l'histoire aussi, hein, c'est-à-dire les premiers textes mythologiques de Bottero et Cramer qui racontent les visites que les dieux polyades des diverses cités se font, leurs festins, leurs discussions.
En théologie, une divinité polyade est une divinité qui protège une cité, qui lui rend un culte spécifique.
Les cadeaux qui se font, la manière dont tel jeune dieu, Enlil en l'occurrence, demande la main de sa future à la mère de la dite future. Tous ces événements-là sont considérés comme relatant des mythes très anciens, avant l'Empire, donc avant 2003. Et puis après, on va avoir des textes beaucoup plus rudes, en un sens. Parmi ce que Cramer et Bottero proposent, il y a, si je remonte le temps au fur et à mesure, vers 2000, des textes qui s'appellent « Liste royale » et autres, dans lesquels
aussi figure déjà le déluge, et figure des tentatives de construction idéologique, évidemment, de la succession des rois depuis le déluge, avant le déluge, puis après le déluge. Et puis, parmi ces textes anciens, il y a aussi, que je travaille en détail dans le bouquin, ces premiers récits où les guerres sont considérées comme quelque chose de, comment dire, de bien, d'extrêmement valorisé. Et ces textes-là sont juste après le règne de Sargon, c'est-à-dire 2002, par là.
Nous terminons notre cinquième émission avec Sargon. Son règne marque une nouvelle ère. Pour la première fois dans l'histoire, une vaste région de Mésopotamie était politiquement unifiée sous l'autorité centrale d'un monarque. Ce qui fait dire de Sargon d'Akkad qu'il fut le premier empereur connu de l'histoire. Ainsi s'achève notre cinquième émission. Merci à Michel Bonparporte et merci à Yves-Marie Bouillon pour la préparation de cette émission. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission, la sixième, pour évoquer le poème d'Atrahasis, Atrahasis qui deviendra plus tard Noé.